réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous nous rejoignez, merci de commencer votre journée avec Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, nous sommes le mardi 1er mars. Depuis hier, notre tête chercheuse, l'islamologue Sabrina Mirvin, nous raconte les sunnites, les chiites, leur guerre et leur paix. Dans un instant, le deuxième épisode. Et puis en invité culturel, aux alentours de 6h15, la commissaire et chercheuse au jeu de pommes, Pia Viewing, pour nous parler de l'exposition qui a lieu en ce moment au musée du jeu de pommes, une exposition autour du photographe François Collard et de son regard sur les ouvriers des années 50 et 60. Elle sera donc avec nous aux alentours de 6h15. Mais tout de suite, tête chercheuse. Bonjour Sabrina Mervin.
Bonjour.
Chiite, sunnite, guerre et paix. Aujourd'hui, deuxième épisode, construction identitaire et géopolitique. Hier, on a vu comment il y a eu ces trois gros blocs après la mort du prophète Mahomet, c'est-à-dire les sunnites, les chiites, les deux principales branches de l'islam, mais il y a aussi les kharijites, ceux qui se sont pas du tout alignés sur ces deux grands courants. Aujourd'hui, on va voir comment, au fil des siècles, sunnites et chiites vont développer chacun une culture islamique.
Alors, effectivement, sunnites et chiites, pour ne parler que des deux grands groupes, vont développer des cultures différentes. Mais il faut bien garder à l'esprit que d'abord, il y a le même livre et des pratiques qui sont communes. Après, les différences vont se faire surtout dans les détails et puis vont se faire sur certains points de doctrine, sur certains points théologiques. Cela dit, les différences ne sont pas seulement entre les chiites et les sunnites. Il y a aussi des groupes à l'intérieur de chaque grande branche de l'islam qui se font. Alors, les groupes se font en général sur des doctrines, donc sur des sciences religieuses, sur des points de théologie. Dans le sunnisme, il y a quatre écoles juridiques. Cela dit, ces quatre écoles, elles ont été retenues et maintenant elles sont connues, elles sont là. Il y en a eu d'autres auparavant qui dans l'histoire se sont plus ou moins évanouies. Cela dit, on peut aussi, même aujourd'hui, les faire revivre. Si un savant chiite a envie de se fonder, d'aller chercher un autre savant qui travaille dans une autre école qui a disparu ou quasiment disparu aujourd'hui, il peut très bien le faire. Donc, on est dans des situations quand même déjà un peu plus complexes que ces deux grandes branches. Ensuite, pour ce qui est des chiites, on a trois grands groupes, voire quatre, dans les chiites, et ils sont connus, donc je vais vous les citer. D'une part, les chiites qu'on appelle du haut des Simains, qui sont ceux que l'on trouve en Iran, en Irak, au Liban, minoritaires au Pakistan, en Afghanistan, et il y en a jusqu'en Indonésie ou en Malaisie. Il y en a aussi dans d'autres endroits, et puis bien évidemment on en trouve dans la diaspora, hein, puisque l'islam c'est pas seulement le Moyen-Orient ou même les
pays asiatiques, non.
Voilà.
Il y a aussi les diasporas, c'est
absolument.
Bien de
donc,
le rappeler.
Donc les chiites du haut des Simains admettent une lignée de 12 imams. C'est pour ça qu'on les appelle du haut des Simains. et disons que le chef de file du chiisme duodécimain, aujourd'hui ce serait l'Iran, mais il y a aussi l'Irak qui est extrêmement important parce qu'il y a des lieux saints pour les chiites duodécimains en Irak, notamment Najaf. Najaf qui abrite le mausolée de Ali, le premier imam pour les chiites. Et il y a aussi Karbala, où il y a le mausolée de Hossein, dont on parlait précédemment, et donc qui a connu le martyr dans cet endroit. Donc il y a un grand pèlerinage à Karbala tous les ans pour commémorer ce martyr. Il y a d'autres endroits où les chiites font des pèlerinages qui leur sont propres, qu'on appelle des ziyarats. Et ces endroits, en général, ce sont des mausolées, donc des lieux où sont enterrés leurs imams, ou bien des lieux où se trouvent aussi des mausolées de ce qu'on appelle les gens de la maison, c'est-à-dire en fait la famille sacrée, les descendants du prophète et les descendants des imams. Ils ont un culte un peu particulier qu'ils vouent à ces imams.
Ça, c'est la tendance principale des chiites.
Voilà, c'est la majorité des chiites. Maintenant, il y a aussi les ismaéliens, qu'on connaît bien quand même, notamment les nizarites, donc ceux qui suivent l'Agacan. Et puis, il y a aussi les zaydites, que l'on trouve aujourd'hui au Yémen. Et alors là, disons que doctrinalement, les zaydites sont un petit peu entre le chiisme et le sunnisme. Et dans l'histoire eux-mêmes, ils ont été un peu fluctuants. Les zaydites n'ont pas suivi la même lignée que les duodécimains ou que les ismaéliens. En fait, si vous voulez, tous s'accordent sur la question de l'imamat à la base, c'est-à-dire le premier imam pour tout le monde, c'est Ali. Mais ensuite, ils ont eux-mêmes construit différemment la notion d'imamat, la théorie qui entoure la personne de l'imam, et ensuite ils ont des lignées qui sont différentes. Pour les sunnites, il y a quatre écoles, quatre écoles de droit. Et puis, les sunnites se sont entendus sur la théologie, disons, et ils ont une théologie un peu commune, sauf pour les hanbalites.
Alors, quelles sont les autres écoles des sunnites? Il y a les malékites,
les hanifites, les hanbalites et les chaféites. Les quatre écoles juridiques sunnites vont avoir des différences qui sont assez minimes et qui relèvent donc du droit islamique. C'est à la fois la manière de concevoir le droit et la manière de l'appliquer, donc les fatwas. Il va y avoir des fatwas différentes. Ils ont chacun des fondateurs éponymes auxquels ils se réfèrent, qui sont donc différents. Cela dit, et c'est là où c'est quand même très important, les oulémas, donc les savants de l'islam, les juristes, les spécialistes en droit islamique, ils se réclament d'une école, mais ils ne s'interdisent pas pour autant d'aller piocher dans l'école, dans une autre école, des concepts ou à un moment des fatwas qui les intéressent pour résoudre un cas particulier. Ouais, donc ça... en fait, c'est beaucoup plus souple qu'on ne veut bien.
À l'intérieur des deux courants.
À l'intérieur des écoles juridiques sunnites, mais les chiites aussi peuvent très bien aller chercher des concepts qui appartiennent à une école sunnite. En fait, on peut dire que les doctrines vont être un peu figées, disons, à partir du XIe siècle. Mais tout ça est très relatif parce que, comme je vous ai dit, on continue de passer d'une école juridique à l'autre et de discuter entre oulémas. Et puis aussi, parfois, il y a des affiliations qui ne sont pas très claires. Il y a autre chose aussi, c'est que les oulémas pouvaient très bien chercher des maîtres dans d'autres écoles. Et des chiites pouvaient aussi aller apprendre dans des milieux sunnites ou dans des écoles sunnites. Donc,
ça, c'est des moments de paix.
Oui, bien sûr, ce sont des moments de paix, mais il y a toujours eu ce mouvement, ce mouvement dans les milieux cléricaux. Même aujourd'hui, des chiites vont très bien pouvoir vous parler du droit islamique sunnite, enfin, et des quatre écoles sunnites, ils les ont étudiées. Il y a beaucoup moins de rigidité qu'on veut bien le penser, en fait. Il y a beaucoup plus de dialogue dans les doctrines et chez les oulémas qui pratiquent les doctrines.
Alors aujourd'hui, Sabrina Mervin, on dit que la différence fondamentale qu'il y a entre les sunnites et les chiites, c'est que les chiites ont un clergé et que les sunnites n'en ont pas. Est-ce que cette différence fondamentale existe depuis le XIe siècle? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est très fondateur dans l'explication justement des relations entre sunnites et chiites?
La différence fondamentale entre le sunnisme et le chiisme, c'est la théorie du pouvoir, c'est la théorie de l'autorité religieuse. Et donc, on a parlé de la construction du califat d'un côté et de l'imamat de l'autre. Donc, d'un côté, on avait des califes, les califes bien dirigés, et ensuite d'autres califes qui les ont suivis. Le califat ne fait pas partie véritablement du dogme dans le sunnisme, alors que dans le chiisme, l'imamat fait vraiment partie de ce qu'on appelle les fondements de la religion. Parce que c'est une théorie qui s'est construite autour, à partir de l'imamat, du premier imam, donc de Ali. Ce que disent les chiites, c'est que l'imam est venu pour compléter la prophétie. Donc, il vient continuer, expliquer la mission, le message du prophète. L'imam est infaillible, tout comme le prophète. Alors que pour les sunnites, l'imam est infaillible seulement dans la prophétie. Donc, les chiites, pour eux, l'imam, c'est quelqu'un à qui ils doivent l'obéissance, mais aussi la dévotion, l'amour, d'où des pratiques cultuelles, d'où ces visites pieuses au mausolée pour se rapprocher de l'imam. Et alors l'obéissance, c'est-à-dire qu'ils doivent suivre la loi religieuse via l'imam, puisque l'imam est l'héritier du prophète, c'est lui qui est habilité à décliner la loi religieuse. La loi divine.
Ce qui n'est pas du tout le cas pour les sunnites.
Exactement. Et c'est là la véritable différence. D'où, effectivement, aussi la différence dans les clergés. Les chiites ont construit, en fait, un clergé. Ce qui s'est passé, c'est que, donc, pour ce qui est des duodécimains, le 11e imam est mort et il a été assassiné. Dans la tradition chiite, tous les imams ont été assassinés. Ou bien par l'épée, ou bien par le poison. Pour les chiites, le 12e, en fait, est entré en occultation pour se protéger. Donc, il a disparu. Il a disparu à Samarra, donc une ville qui est en Irak. Le 12e imam a disparu. Pendant un moment, il a envoyé à sa communauté des ambassadeurs pour pouvoir leur donner des directives, répondre à leurs questions, etc. Et puis, en 941, il a décidé que c'était terminé. Donc, l'imam est entré en occultation. C'est une doctrine messianique. C'est-à-dire que maintenant, les croyants chiites attendent la réapparition de l'imam. Ce qu'il dit, c'est que l'imam n'est pas mort, mais il est caché, il vit, et il va réapparaître avant la fin du monde pour restaurer la justice sur terre, pour régner, et ensuite il y aura le jugement dernier.
Demain, on se retrouve, Sabrina Mervin, pour la suite de notre série sunnite, chiite, guerre et paix. Et demain, on va voir comment ces deux courants vont affronter l'éruption de la modernité. À demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Bonjour Pia Viewing.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse et commissaire d'exposition au Jeu de Pommes, place de la Concorde à Paris. Et vous venez nous parler de l'exposition qu'on peut voir encore jusqu'en mai, Un ouvrier du regard, qui est une rétrospective d'un photographe François Collard, un photographe français d'origine hongroise qui a été vraiment le témoin de ces années industrielles en France, des 30 glorieuses.
Oui, François Collard est arrivé en France à 20 ans, en 1924. Et son rêve, c'était de devenir photographe. Il avait travaillé déjà dans les chemins de fer en Tchécoslovaquie. Auparavant, son père était chef de gare. Et quand il arrive en France, il va commencer à travailler dans les usines Renault à Billancourt. Et c'est là où, je pense, il se forme au monde industriel en France. C'est-à-dire qu'il va comprendre comment fonctionne une usine, les espaces et les chaînes de production qui sont finalement les assez avancées au niveau de la mécanisation du travail, la rationalisation de l'espace et du temps de travail dans les usines, notamment d'automobiles, qui sont les premiers à se moderniser de la sorte dans les années 20, en fait.
Alors, autant dire que c'est un monde qui a disparu aujourd'hui, que ce monde qui réapparaît dans cette exposition, dans cette première rétrospective, parce que vous allez nous l'expliquer, c'est la première fois qu'on expose toute l'œuvre de François Collard, et c'est vraiment un bon témoignage de la France industrielle, de la France des usines, de 1930 à 1960.
Oui, absolument. Donc, en fait, l'exposition est partagée en trois parties. On voit dans la première partie, suite à son expérience de tourneur de métaux dans cette usine Renault à Billancourt, il va commencer la photographie en travaillant dans des agences et dans des imprimeries pour faire des photographies pour la presse illustrée et notamment pour la publicité. Donc, il va faire des compositions modernistes et il va expérimenter toutes les techniques de la photographie.
Et ça aussi, c'est exposé d'ailleurs.
C'est exposé.
Mais le monde du travail, c'est-à-dire le cœur de cette exposition, est-ce que c'était des photos qu'il prenait parallèlement à son travail pour ses magazines, ou est-ce que il est venu après à se spécialiser?
Absolument. En fait, c'est grâce à une rencontre qu'il fait quand il travaille pour une imprimerie Dragère Frères. Il rencontre un certain Maximilien Vox, qui est un grand typographe, un typographe célèbre, graphiste, qui lui présente Jacques-Henri Lagrange, qui est le directeur des éditions des Horizons de France, qui lui passe cette commande, cette fameuse commande, La France Travaille, et qui est le cœur de l'exposition. Donc c'est une commande qui va durer en fait à peu près 4 ans. Entre 1931 et 1934, M. Collard va sillonner les 20 départements de France. Il va couvrir les métiers agricoles, industriels, artisanaux. Il va vraiment couvrir, on va dire, presque tous les métiers de France à cette époque. Le moment, en fait, clé de la... En fait, en 1931, c'est la crise qui frappe la France. Et c'est un peu paradoxal que c'est à ce moment-là qu'il va commencer à couvrir et à faire cette énorme étude sur le travail en France.
Alors, oui, c'est la France qui travaille, c'est les travailleurs de France de cette époque-là qui va immortaliser. Vous avez intitulé cette exposition au jeu de pommes « Un ouvrier du regard ». Pourquoi Pia Viewing?
Parce que François Collard, finalement, a répondu aux commandes toute sa vie. C'est un photographe qui n'a pas eu vraiment de pratique personnelle à côté de son travail, on va dire, de commandes. Et de ce fait, comme c'est un excellent photographe, que techniquement, son travail est vraiment hors pair, c'est à la fois le lien très proche qu'il avait avec le monde ouvrier, mais à la fois c'est lui-même l'ouvrier de son propre œuvre. C'est-à-dire que il exerce une certaine distance vis-à-vis du sujet. Ce n'est pas un homme, on va dire, politiquement engagé qui pourrait appartenir au monde de la photographie ouvrière, pas du tout. Justement, c'est un homme qui maintient une distance vis-à-vis de son sujet et qui essaye de le montrer avec le plus de grâce, le plus d'élégance possible. Et donc, il est aussi à l'aise dans le monde industriel qu'il peut l'être quand il fait ses photographies de mode avec Coco Chanel et les divers modèles qu'il a pu photographier sur une période à peu près de 20 ans, où il a travaillé notamment pour Harper's Bazaar magazine.
Ce qui n'est pas rien, donc.
Oui, oui, absolument.
Donc, il a été tout de suite reconnu, François Collard, en tant que photographe, par la profession, par les revues, par les boîtes de publicité.
Oui.
Alors, sur les 130 photos qui constituent cette grande rétrospective, vous l'avez vu, vous l'avez bien dit, alors, s'il n'était pas politique, François Collard, on a l'impression que, en voyant toutes ces photos, et surtout en emportant ensuite cet excellent catalogue d'expositions qui reste un très beau livre de photos, on se rend compte que quand même, il y a le témoignage de l'idéologie du progrès, que le moteur de l'économie capitaliste est déjà installé parce que il a un rapport plutôt sympathique avec les travailleurs qu'il photographie.
Mmh. Les années 30, 40, c'est-à-dire la période entre les deux guerres, c'est une période très complexe. Et je me suis rendu compte que si la Première Guerre mondiale était possible, imaginable, c'est aussi parce que les Français avaient une certaine foi dans une forte patriotisme, en fait. Et c'est ça qui l'a amené les Français à s'identifier d'aussi près avec leur nation en termes de communauté et de peuple. Et c'est en lisant des textes de Pierre Rampe, qui écrit d'ailleurs dans les fascicules de la France Travail, que je me suis rendu compte à quel point aujourd'hui on s'est éloigné de certaines de cette idéologie. Par exemple, il parle de l'honneur du métier, que les attitudes des ouvriers sont des attitudes qui sont héréditaires, hein, qui passent de génération en génération. Et on parle beaucoup de la relation directe entre l'homme et son travail, en parlant notamment de l'engagement du corps. Par exemple, là, je le cite, Pierre Rampe, il dit « La mécanisation accomplit le salut des peuples ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand après la Première Guerre mondiale, la machine vient au secours de l'homme pour continuer à produire, à faire en sorte que l'évolution industrielle se poursuit, c'est une réponse qui va effectivement dans le sens de du progrès capitaliste, de la production qui s'améliore de plus en plus, mais aussi parce que effectivement la main d'œuvre est moindre, les hommes sont morts au combat et on est dans une période assez flottante où en fait l'œuvre de Collard va nous montrer aussi que dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, on est dans une autre ère, l'ère de la consommation, où ce matérialisme qui était déjà présent dans les années 30 va être exacerbé à outrance par la suite.
Alors justement, dans les photos de François Collard, pour poursuivre votre propos, Pierre Viewing, c'est qu'il photographie ses travailleurs dans leurs usines, dans leurs ateliers, exactement comme il prend photo des stars comme Coco Chanel, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce jeu de lumière, ce grain, la transparence du clair obscur qui met en valeur les textures. Est-ce que on peut parler d'une école de photo? Est-ce qu'il appartenait à un courant, François Collard?
Je pense que si on avait à l'attacher à un courant, ce serait le courant de la photographie documentaire. Ce n'est pas non plus le père de la photographie documentaire, puisque il n'a pas pensé son travail en termes théoriques. Je pense qu'à ses débuts, il a dû se nourrir en regardant les photographies de Moulinage, de Man Ray, toute la période moderniste qui est antérieure à sa pratique d'à peu près 5 à 6 ans. Hein. Donc Collard, il va commencer à faire des compositions modernistes au plus tôt en 1927-28, alors que d'autres l'ont fait quelques 5 ou 6 ans auparavant. Donc il va s'en nourrir, mais c'est pas pour autant qu'il poursuit ses recherches créatives par la suite. La création de Collard, c'est sa capacité à s'adapter à toutes les circonstances et à photographier tous les sujets, quoi qu'il en soit de l'environnement qui l'entoure.
Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire il devient comme les sujets qu'il prend en photo, c'est-à-dire pas un artiste, mais un artisan.
Oui, oui, oui.
Merci beaucoup, Pierre Viewing. Vous restez avec nous. Je rappelle que l'exposition « Un ouvrier du regard » de François Collard, c'est au Jeu de Pomme en ce moment. Et on passe au questionnaire avec notre invitée, la commissaire d'exposition au Jeu de Pomme. Première question, Pierre Viewing.
Une belle photo qui vous a marqué récemment. Une photographie de François Collard qui est absolument magnifique, je trouve. C'est une image dans la partie métier du fer et en fait sont des énormes plaques de tôle qui sont superposées à l'horizontale et il y a une énorme plaque qui est perpendiculaire à cela sous laquelle on a un ombre porté d'un ouvrier qui met sa main contre cette plaque. Et c'est une question d'échelle, en fait, entre l'ouvrier et la matière produite. Mais aussi, cette plaque, c'est comme une sorte de photographie. C'est comme une sorte de surface sensible sur laquelle l'ombre de l'ouvrier est imprégnée. Et je trouve que ce que Collard a réussi à capter, c'est cette espèce de connexion très intime qu'il y avait dans le monde du travail à l'époque, et qui a peut-être toujours, hein, entre l'homme et sa fonction, en fait, au sein des chaînes de production.
Photo de François Collard à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission Un autre jour est possible. Deuxième question pour vous, toujours, Pia Viewing.
Une photo de famille que vous affectionnez particulièrement. Alors, je pense à une photographie qui pourrait éventuellement ressembler à une photographie de Collard. En fait, c'est une image de mon père qui est d'origine anglaise et qui a fait son doctorat au Sierra Leone. Et en fait, c'est une photographie, il est tout malingre, il doit avoir 22 ans, ouais. Et il est assez grand, hein, tout fin comme ça, et il pose devant la tente, il fait des recherches géologiques, en fait, et on voit cet Anglais tout blanc, qui est entouré d'une sorte de savane très sèche, et voilà, c'est une image qui me marque, parce que c'est vraiment l'aventure.
Merci beaucoup, bonne journée tout le monde, on se retrouve demain à la même heure.